franceinter.fr.
À la revue de presse de 8h35, donc bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
De l'eau et des pelleteuses en une des journaux. Ce matin, c'est le titre du jour dans la presse, l'inauguration d'un nouveau canal de Suez plus large et plus profond.
Aujourd'hui, je me sens fière d'être égyptienne. Dans le Figaro, une jeune femme s'émeut, foulard rose, lunettes de soleil. Elle a embarqué sur un bateau qui emprunte le canal, une perche à selfie à la main pour immortaliser l'instant. Guirlande lumineuse sur les ponts du Caire, nounours gonflable sur la place Tahrir. Rien ne semble suffisant pour célébrer ce projet si cher au président Al-Sissi, décrit le journal. Le 6 août est désormais jour férié pour tous les fonctionnaires et même les touristes sont associés, ajoute Libération, avec cette phrase tamponnée sur leur passeport, le canal de Suez est un don de l'Égypte au monde. Pour l'Égypte, ce canal plus, c'est l'espoir d'une renaissance, d'une relance de l'économie, mais des craintes, il y en a. Elles sont relayées encore par Libération et le Figaro. Et si les bateaux n'affluaient pas comme prévu? Et si ce canal agrandi était une cible de choix pour les djihadistes? Le groupe est État islamique ennemi redouté. Une attaque ici serait aussi médiatique que symbolique. Comme un talisman, des banderoles colorées bordent le canal à hauteur d'Ismaïlia, à mi-chemin entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. On peut y lire « Bienvenue en Égypte, hors de danger et dans son canal sécurisé ». Suez, c'est aussi la une ce matin de La Croix, des Échos et de l'Opinion qui centre son analyse sur la venue de François Hollande, invité d'honneur. Hollande qui, après la livraison de premiers avions Rafale, mène selon le quotidien libéral une campagne d'Égypte.
Qu'y avait-il en une de la presse, Julie Pietri, le 7 août 1945?
Comment a-t-on vécu le lendemain de Little Boy, le lendemain de la bombe lâchée sur Hiroshima? Pour les 70 ans de la catastrophe, plusieurs journaux publient leur une de l'époque et on comprend qu'avant l'effroi, il y a d'abord eu la fascination. Titre froid du New York Times, première bombe atomique lancée sur le Japon, l'équivalent de 20 000 tonnes de TNT. À peu près la même chose alors pour l'humanité. L'UMA qui rappelle, au lendemain d'Hiroshima, la presse internationale est dans l'expectative. Truman déclare à la radio qu'il a maîtrisé les forces du soleil. Les Américains filtrent les accès à Hiroshima et Nagasaki. L'opinion est focalisée sur les 50 millions de morts de la guerre. On parle surtout en fait d'une révolution scientifique et d'un nouveau destin. En France, seul Albert Camus semble mesurer alors ce que représente à partir de ce moment-là la menace nucléaire. Il écrit dans Combat « Il y a quelque indécence à célébrer ainsi une découverte qui se met d'abord au service de la plus formidable rage de destruction dont l'homme ait fait preuve depuis des siècles. » Aujourd'hui, où en est-on? Les États-Unis gardent leur vision de l'histoire, analyse le Figaro. En 45, les pilotes qui ont largué les bombes sont accueillis à leur retour en héros. Le message de Washington est clair. Leur geste a sauvé des millions de vies américaines. 70 ans plus tard, 56% des Américains pensent encore que l'arme atomique était justifiée. Pourtant, on sait aujourd'hui, rappelle le site internet de l'Obs, que le Japon était prêt à transiger et que les Américains le savaient. Quant à la tentation de la guerre, elle serait de retour au Japon. C'est l'analyse en tout cas du Wall Street Journal. Pour l'instant, la constitution japonaise est claire. Dans son article 9, elle stipule renonciation à la guerre. Il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales, aériennes ou autres potentiels de guerre. Sauf que le premier ministre japonais a proposé une évolution de la loi pour faire face, dit-il, à de nouvelles menaces comme l'appétit territorial chinois. Pour Shinzo Abe, penser que le pacifisme a préservé le Japon pendant toutes ces années, c'est oublier que nous avons été protégés par la plus grande puissance militaire au monde, les États-Unis. Ironie de l'histoire, cette nouvelle loi permettrait aux Japonais d'épauler les Américains en cas de crise.
Après l'année 45, l'année 76. Cette année-là, un jeune homme servait des glaces, mais il visait déjà l'Élysée.
Un épisode savoureux de la jeunesse de Nicolas Sarkozy à lire dans Le Point cette semaine. Il a alors 21 ans, fréquente la fac de droit, aime Jacques Chirac et est serveur à la Sorbetière à Neuilly. Dans un couloir exigu, longé de congélateurs, le couple de patrons observe le jeune homme, patte def, cheveux ondulés, tablier et blanc, de l'agacement quand les boules de glace dégringolent et une ardeur presque hargneuse. C'est dans ce magasin de glace qu'il donne rendez-vous à Brice Hortefeux, qu'il discute des municipales de 77 et là que se réunit aussi le RPR de Neuilly. Nicolas Sarkozy qui a choisi Valeurs Actuelles, hebdomadaire très à droite, pour, je cite, s'exprimer à cœur ouvert, pas sur le nombre de glaces qu'il a englouti jadis, mais sur les électeurs du Front National. Il dit vouloir reconquérir ses ex-supporters passés au FN, comme Madeleine, une femme croisée et érigée visiblement en symbole. À ces millions de madeleines, je veux dire de ne pas suivre la politique du pire. C'est qui le roi de l'esbrouffe du jour? Le Parisien poursuit sa série sur les bluffeurs qui ont longtemps réussi à tromper tout le monde. Aujourd'hui, le quotidien raconte une histoire qu'on ne se lasse pas d'entendre, celle de Franck Abagnale. Leonardo DiCaprio s'était glissé dans sa peau dans le film Arrête-moi si tu peux. Cet homme s'est fait passer pour un pilote de ligne, un avocat, un médecin. Il a escroqué des banques à hauteur de plusieurs millions et a mis le FBI sur les dents. Mais c'est le FBI qui l'a sorti de prison pour utiliser son expertise de voyou. Aujourd'hui, Abagnale dirige une florissante entreprise de conseil spécialisée dans la détection de la fraude. Dans un livre, il assure que s'il a dérapé, c'est avant tout pour séduire des jolies filles. Les mystères de l'amour, décryptés par l'hebdomadaire chrétien La Vie cette semaine. Vaut-il mieux porter une robe rouge ou un bouquet de fleurs à la main pour attirer l'attention? Un chercheur en psychologie sociale, Nicolas Guéguin, a calculé scientifiquement les ressorts de la séduction. Conclusion, si vous êtes enquêtrice dans la rue, plus vos talons seront hauts, plus les hommes accepteront de vous répondre. 83% de oui quand même avec un talon de 9 cm. La robe rouge, ça marche aussi. Et pour les hommes, jouer de la guitare, avoir une barbe mais pas de poils sur le torse, c'est visiblement le must.
C'était la revue de presse de Julie Pietri.